Alors quand on a rencontré Nagoinder, c'était avec Philippe Hubert, c'était en 99 ou 2000. On allait à Montréal à un congrès de réanimation pédiatrique où on présentait la question de la place des parents dans les participants, la place des parents dans les décisions difficiles. C'est un travail qu'on avait commencé ici. Et puis on réfléchissait sur cette question avant la loi Leonetti, sur la question de la limitation et des arrêts de traitement, et sur la place des parents, avec un certain nombre de parents qui avaient vécu ces situations-là et qui témoignaient et qui nous apportaient des choses extrêmement importantes. Et puis on a croisé autour d'un film Nago Humbert, qui était en même temps réalisateur, scénariste, comédien d'un très beau film qui s'appelle Le regard de Delphine, qui posait, et qui pose d'ailleurs, dont on sert souvent, qui pose en même temps des problèmes humains, psychologiques, éthiques, et qui sert beaucoup. Et à ce moment-là, on a été interpellé, Philippe Hubert et moi, on s'est mis à discuter avec cet homme-là, et on s'est rendu compte qu'on avait quelques idées qui nous plaisaient bien, c'est-à-dire que les soins palliatifs, c'est la vie. C'est-à-dire que les soins palliatifs n'étaient pas, comme on l'avait écrit quelque temps avant avec Philippe, est-ce que c'était un besoin d'humanité ou un aveu d'impuissance, et qu'il y avait beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à réfléchir sur ce sujet-là. Et puis on s'est retrouvé aussi sur cette question des frères et sœurs, qui est un thème très cher à Nago, c'est-à-dire ces oubliés soit de la maladie, ces oubliés du deuil aussi. Et puis je sais qu'actuellement, il s'intéresse aussi beaucoup aux grands-parents, et peut-être même aux arrière-grands-parents, parce que j'ai encore jeune, mes arrière-grands-parents, pareil. Donc je suis ravi que Nago ait traversé l'Atlantique pour venir nous parler, et vous aurez sûrement des questions à lui poser. Je te laisse la parole, et merci encore d'être là.
Alors, ce soir, je vais essayer de partager avec vous mon expérience, plus que de faire de l'académisme. Je sais qu'il y a des pédiatres, des infirmières, des grands psychiatres, des psychologues, des travailleuses sociales, des infirmières, j'espère. Et puis, alors, moi, je suis le responsable de l'unité mobile de soins palliatifs pédiatriques. Mobile, c'est pas que je me promène à vélo dans l'hôpital Saint-Justine, ça veut dire qu'on se déplace, parce que c'est un enfant qui m'a dit ça l'autre jour. Il m'a dit, c'est marqué unité mobile, ça veut dire que tu viens en patin à roulette, il dit, j'aimerais bien. Je suis de formation lyonnaise, donc j'ai un accent très particulier, c'est pour ceux qui cherchent, entre la Suisse et le Québec, et je suis un fils de Jean Guillotin, comme disait le professeur Rox tout à l'heure, je suis dans la filiation. Et, donc j'ai atterri au Québec, c'est le cas de le dire, je n'étais pas du tout destiné à aller là, mais comme disait ma psychanalyste, il faut savoir saisir les coïncidences. Je l'ai saisi. C'est assez étrange, je suis occupé des soins palliatifs et je donnerai l'anecdote. Nous avons déjà fait 3 congrès en soins palliatifs pédiatriques. C'est le seul congrès qui existe de spécificité de soins palliatifs pédiatriques. Suite à une invitation au congrès européen de l'association suisse, le congrès européen de l'association européenne de soins palliatifs, qui s'appelle maintenant European Association of Palliative Care, parce que c'est plutôt anglophone que francophone. Et c'était en Sicile. Et on était 3. À s'occuper des enfants. Nous avons fait un atelier pour la première fois, c'était en 2000, sur les soins palliatifs pédiatriques. Il y avait, et on était 2 à parler, c'était le docteur Poulain et moi. Il y avait 2500 personnes, nous avions 12 personnes à notre atelier. Outre l'horrible blessure narcissique que nous avons subie, on s'est rendu compte qu'on n'était pas dans le bon congrès. Et effectivement, les gens venaient là parce qu'ils s'occupaient de personnes adultes, âgées, et que c'était ça les soins palliatifs. Et on était incongru d'être au milieu et de parler des enfants. D'où le fait que nous avons dit, ben, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un congrès entre nous, et c'est ce qu'on a fait avec Pierre, avec Philippe Hubert et d'autres, et on a réuni des personnes qui, dont la conclusion a été, oui, les soins palliatifs pédiatriques ont une spécificité. Et je me rappelle qu'une journaliste de Radio-Canada qui était venue me voir, qui devait couvrir l'événement, m'avait dit, En tout cas, c'est épouvantable. On s'est passé cette invitation dans toute la rédaction parce que personne ne voulait venir. Quelle horreur, tu vas couvrir ça, la mort des enfants, c'est épouvantable. Et je dis, madame, c'est à moi que vous dites ça. Quand je vois ce que vous montrez à la télévision. On se rappelle des charniers du Rwanda. Hein? On voyait ces enfants morts entassés dans les charrettes à l'heure du souper. Et puis, on s'était banalisé. Et si on imagine deux secondes que ça peut être votre enfant, votre nièce, votre petit-fils qui est là-dedans, vous auriez trouvé ça abject, ignoble. Mais c'est loin. Et donc, dans ce musée de la catastrophe qui est la télévision, ne me dites pas que maintenant qu'on va parler des soins aux enfants ici à Montréal, vous avez peur de ça. Je trouvais ça totalement, d'abord inadapté, incongru. D'abord parce que nous, on ne s'occupe pas de la mort des enfants. C'est autre chose. On s'occupe de la vie. Et ça, c'est très, très, très important. On s'occupe de la vie, comme on dit, un peu jusqu'au bout. Parce qu'on passe après. Je n'aime pas tellement le mot accompagnement. Parce que moi, l'accompagnement, il faut les accompagner après. Puis moi, je m'arrête à un certain moment. Sinon, on mourrait chaque fois qu'un patient meurt. L'important de cette vie, et je vais vous la décrire pendant les minutes de mon petit exposé, vous allez voir, j'espère le sentir à travers les exemples que je vais vous citer, parce qu'il n'y a rien de mieux que les cas cliniques pour exposer ce qu'on a à dire, fait que vous allez voir que c'est des enfants extrêmement vivants dont nous occupons. La grande différence qu'il y a aussi avec les soins palliatifs adultes, c'est la longueur de la prise en charge. Mes collègues à la faculté de médecine, je suis le seul qui enseigne les soins palliatifs pédiatriques, mes collègues qui enseignent l'adulte, la moyenne de connaissance, de relation, la moyenne relationnelle, je dirais, avec leurs patients, c'est en moyenne 10 jours. Parce qu'ils sont dans des unités de soins palliatifs. Et que les gens viennent, et ça s'appelle ça, moi, la phase terminale, et pas les soins palliatifs. Nous, j'ai une patiente que nous suivons depuis 4 ans. Et je vous parlerai après, j'aimerais vraiment vous parler de ça. C'est ces enfants qui ne meurent pas. Ce sera le titre de ma prochaine conférence, le prochain congrès, parce qu'on en a de plus en plus qui, grâce aux soins palliatifs, c'est ridicule de dire, mais vivent assez correctement, malgré toutes les amputations, les horreurs qu'ils peuvent vivre dans leur traitement, et dont on a déclaré à un moment donné qu'ils étaient en phase palliative de la maladie, et les parents attendent, et puis finalement ils disent, mais qu'est-ce qu'on fait là, ils ne meurent pas. Et ça pose des normes, ça paraît assez rigolo comme ça, mais ça pose pour les familles, hein, les frères et sœurs, des parents et même des soignants, d'énormes problèmes. On a décidé qu'il devait mourir et il ne meurt pas, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je terminerai là-dessus. Et puis alors, ce qui est intéressant, oui, la mort de l'enfant est peut-être un tabou, parce qu'on n'en parle pas, donc je vous dis, c'est loin, c'est en Haïti, c'est en Afrique, c'est normal là-bas. Mais à Montréal, on ne peut quasi plus mourir. À l'hôpital Sainte-Justine, c'est très difficile de mourir par mois. Et comme je dis souvent à mes amis néonatologistes, chez vous, c'est absolument impossible qu'ils meurent, en gros. Donc, la mort est aussi... C'est le 50% des patients, nous avons 160 décès par an à Sainte-Justine, le 50% meurt dans les 7 premiers jours de vie. Donc, vous pensez bien que... Mais, l'endroit où on va le moins, c'est dans le service de néonatologie. Parce qu'ici, on est là pour donner la vie et maintenir en vie. On ne parle pas de soins palliatifs, on ne peut pas parler de soins palliatifs aux parents. C'est assez intéressant. Donc, on évacue aussi la mort de ce service-là. Et je parlerai après, et je ne vais pas dire aux psychiatres qui m'entourent, les séquelles que peut donner le décès d'un petit bébé sur les parents et sur la fratrie qui viendra après ou celle qui existe après. Et puis, on s'est aperçu avec les collègues à la faculté que dans les études pré-graduées, on a un cours en deuxième année. C'est tout. Moi, j'ai 4 heures. 4 heures. Mes collègues adultes ont 4 heures. Donc on fait une journée, deuxième année de médecine. On s'est aperçu, on a 220 étudiants devant nous, 110 vont faire omnipraticiens et les autres spécialistes. Vous avez déjà 110 dans l'auditoire qui n'entendront plus jamais parler de la mort d'un patient, ceux qui font spécialistes. Ceux qui font omnipraticiens auront encore un mois obligatoire dans les 2 ans de résidence de médecine familiale. Mais tout le reste n'en parle pas. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'un des enseignants, Serge Dano, m'a dit que son fils qui est en médecine, ils font les approches, les APP, les fameuses approches par problème, leurs patients ne meurent jamais. Donc ils font tout le système cardio-respiratoire, ils n'ont pas un patient qui meurt. C'est extraordinaire. voilà quelques personnes qui sont mortes quand même de problèmes cardiaques. Donc, c'est quelque chose qui est complètement en dehors. Deuxième chose, on vient de s'apercevoir, j'avais une résidente 5, donc, qui finit sa pédiatrie avec moi l'année passée. Dans 2 semaines, elle était lâchée dans la nature comme une vraie pédiatre. Et nous avions un diagnostic d'amyotrophie spinale annoncé aux parents. Et donc ça, on le fait ensemble avec le pneumologue ou le neurologue. Dans la phase où, pas au diagnostic, mais quand on passe vraiment en phase palliative, de toute façon, quand on est en amyotrophie, c'est déjà palliatif au diagnostic, mais quand on se rend compte que là, la prise en charge doit être complètement palliative. Cette résidente, brillante d'ailleurs, me dit en sortant, c'était extraordinaire la façon dont vous avez parlé aux parents avec le docteur Chose et tout ça, j'étais impressionné par vous. J'ai dit, un, je suis plus vieux que vous, et deux, j'ai appris. Elle m'a dit, c'est la première fois que j'assiste à l'annonce d'un diagnostic comme ça. Je dis, c'est pas possible. Vos patrons, vous savez quoi? Ils nous mettent dehors quand ils font les annonces de diagnostic difficiles. Alors, il ne faut pas être étonné que nos jeunes patrons n'arrêtent pas de dire des conneries aux parents. Et aux... Donc, on y travaille, je vous promets qu'on y travaille sur cette communication. Et puis, il est clair que il y a sur 60 000 décès par an, à peu près en moyenne au Québec, une population de 7 millions d'habitants, c'est à peu près la Suisse, mais 4 fois la France en grandeur. Et ça, c'est pas anodin ce que je dis quand je vous dis que c'est 4 fois la France, parce que vous voyez les problèmes que ça peut donner quand on a des enfants qui viennent de loin et qui n'ont pas de pédiatre comme vous. Eh bien, il y a 1 000 décès par année d'enfants, on dit 0 à 18 ans, sans compter ce qu'on appelle les morties naissances, les enfants morts-nés, ils ne sont pas comptés dans les 1 000 enfants. Alors évidemment, au niveau statistique, il est clair qu'on n'est pas gros et que et l'industrie pharmaceutique qui ne s'intéresse pas du tout à nous, et je parle de suppléments pharmacologiques. Anecdote, 3 congrès en soins palliatifs pédiatriques, aucune firme pharmaceutique a accepté de nous sponsoriser. Aucune. Et avec le côté au moins franc, disant le marché est trop petit, ça, vous ne nous intéressez pas. Ce qui est bien. Vous allez dans un congrès de soins palliatifs adultes, c'est bourré, le pharmacien. Évidemment, il y a plus d'adultes qui décèdent. Alors, quelle est la spécificité? Je vais en arriver. La spécificité d'abord des soins palliatifs pédiatriques, c'est évidemment la douleur. Il n'y a pas, et ça c'est pas seulement pour les enfants, je dis, mais c'est l'évaluation et le traitement de la douleur qui est déjà spécifique pour l'enfant. Et il n'y a pas de soins palliatifs, on est bien d'accord, sans traitement de la douleur. On a quand même avancé depuis la fameuse étude de 98 dans le Lancet des anesthésistes anglais qui avait démontré que seuls 30% des enfants en néonatologie recevaient une narcose complète pour les opérations majeures. Ça veut dire que 70% étaient opérés à vif. Avec les deux raisons qu'on évoquait à l'époque, c'est que le système neurophysiologique n'était pas abouti, ce qui est fou, on sait depuis, et que la deuxième raison est encore pire, je dirais, c'est que de toute façon, ils ne s'en souviendront pas. Ce qui est faux, comme vous le savez aussi, puisque la mémoire de la douleur, ça existe. On a fait des progrès, mais malgré tout, dans une étude de Hilden et Wolf de Boston, ils ont fait une étude du côté des médecins et du côté des résultats pour les patients. 91% des médecins oncologues se disent compétents pour soigner la douleur et des autres symptômes. Et de l'autre, les traitements étaient efficaces pour 27% des traitements donnés par ces oncologues. Vous voyez qu'on a encore pas mal de travail à faire. Et il faut casser cette image des soins palliatifs passifs qu'on a souvent. Et je peux vous dire, on est en train de faire une étude rétrospective actuellement de 2000 à maintenant avec une résidente française qui est en stage chez moi depuis 3 ans sur le passage du curatif au palliatif avec les parents. On a repris tous les parents d'enfants qui étaient décédés et n'étaient pas tous rencontrés, mais une bonne partie parce que tous ont accepté, tout ce qu'on a retrouvé. Intéressant dans l'étude, la moitié on les a pas retrouvés parce qu'ils avaient déménagé. Et ça veut dire quelque chose, vous l'aurez compris, après la mort de leur enfant. Les autres ont tous accepté de répondre aux questions. Et puis, ils avaient mis des mots. Avant que l'équipe des soins palliatifs entre dans le dossier de votre enfant, c'était quoi? Et les mots étaient affreux. C'était la mort, c'était l'horreur, c'était le deuil, c'était la souffrance, c'était ça les soins palliatifs. Après notre passage, ce qui est très bon, encore une fois, pour nous arroser le narcisse, c'est qu'ils ont dit non seulement, ça n'a pas été pire, mais notre équipe a amélioré l'état du patient sur le plan physique, mais a amélioré également la relation entre les médecins spécialistes qui tournent autour de notre enfant. Donc on n'était pas, ça m'a fait très plaisir, ça vient de sortir, je l'ai su la semaine passée, c'est les premiers résultats, ça montrait bien que la peur qu'une équipe de soins palliatifs mette de côté les médecins traitants est contredite par l'étude qui dit depuis que vous êtes dans le coup, les médecins se parlent plus et vous avez réussi à réunir les médecins, les asseoir pour parler de notre enfant. Il y a une... Est-ce qu'on est rentré trop tôt, trop tard, avec tout ça? 70% disent qu'on est rentré à l'heure. 30% disent qu'on est rentré un peu trop tard. Puis quand on leur dit, ouais, mais écoutez, franchement, si c'était rentré plus tôt, vous auriez mis dehors, ils disent oui. Et puis une réponse était, ils nous ont volé les derniers moments avec notre fils. C'est une consultation piège, on est arrivé une heure avant le décès de l'enfant, donc genre de consultation qui sert à rien, on est toxique, on est de trop, et je comprends très bien les parents qui ont répondu qu'on leur avait volé par des nouvelles têtes les dernières heures de vie avec leur enfant. Alors, on parlera peut-être après de tout ce passage du curatif au palliatif, mais une chose est claire, c'est que on ne précipite pas le décès de leur enfant. Et alors on a vécu des choses assez étonnantes. Il y a quelques années, il y avait un neurologue que je croisais dans les corridors qui prenait la première porte venue ou la première chambre qu'il pouvait prendre avec un air détaché pour ne pas nous croiser, tellement qu'il avait peur de l'équipe de soins palliatifs. Il y a des services où vous arrivez, où je vais chercher un dossier ou parler à une copine, où les gens sont pétrifiés, parce que c'est un patient qui ne va pas bien dans mon service, tout ne va pas bien. Enfin, il y a encore ces moments-là, où il y a encore cette image-là, de l'homme qui promène avec sa fourche, ou l'image plus drôle de Lucky Luke, celui avec son grand maître qui va mesurer les corps. Ça, ce même neurologue a passé dans l'autre sens, il y a l'été passé. J'avais une résidente avec moi, de pédiatrie, et on avait une consultation, je ne sais pas, mercredi 10h, en neurologie. Je dis oui, on ira, les consultations et tout. Et la jeune résidente me dit, mais vous savez, moi je ne suis pas sûr que ça soit bien adéquat. Puis je dis, qu'est-ce qui se passe? Ben, il va annoncer le diagnostic, justement, d'une amyotrophie spinale à des parents. Ah, je dis, non, là, c'est un peu trop tôt. Ses parents, il faut se rappeler, viennent avec un enfant qui a été un peu hypotone, qui a 2-3 mois, qui imaginent qu'il a un petit trouble, et ils vont ressortir de cette consultation avec un diagnostic qui leur dit que leur enfant ne passera pas 12 mois. Il est clair qu'il faut leur laisser peut-être le temps de souffler. Puisque les questions du papa, j'en ai parlé avec lui après, étaient encore, vous me dites, docteur, que là, il va finir dans une petite chaise. Non, il n'ira même pas dans une chaise roulante. Je les ai vus 4 jours après. Puis j'ai dit au papa, je peux vous poser une question. Si on avait été là, à côté du neurologue, il dit, je vous foutais dehors d'entrée. Donc il faut aussi laisser du temps, et donc pas précipiter. Et c'est extrêmement difficile de savoir quand faire intervenir l'équipe de soins palliatifs, même si on décide que dès maintenant, mais on a fait des efforts énormes. Les oncologues, les hémato-oncologues de chez nous, s'il y en a encore il y a un an, qui, si l'enfant était dans un essai de phase 1, n'appelait pas les soins palliatifs. Parce que pour eux, c'était antinomique, l'essai de phase 1 et les soins palliatifs. Or, on sait très bien que jamais un essai de phase 1 a guéri aucun patient. C'est vraiment l'essai qu'on donne quand il n'y a plus rien à donner. Mais pour eux, c'était encore, il y a encore une chimio, on n'appelle pas l'équipe de soins palliatifs. Maintenant, si je veux faire passer quelques messages ce soir, c'est encore une chose, non seulement les enfants sont vivants, mais on a besoin, je sais que vous êtes en train de monter une équipe de soins palliatifs ici, de gens vivants aussi. Les Mères Teresa, que nous avons, excusez-moi pour Mère Teresa, mais c'est une image, C'est-à-dire, vous connaissez ces infirmières ou ces médecins, ou ces professionnels de la santé qui ne quittent jamais l'hôpital, qui sont là jusqu'à 23 heures, qui vont aux enterrements, qui font même l'oraison funèbre, qui vont faire les vitres chez les parents. On a tout vu ça, j'ai tout connu ça. Et ces infirmières qui s'approprient le patient qui ne va pas bien et qui tassent, comme on dit au Québec, les autres. Ces gens-là sont toxiques. Et ces personnes-là, malheureusement, en tout cas dans mon équipe, il n'y en aura jamais. Et c'est souvent ceux-là qui s'approchent de vous pour dire si jamais il y a une place, j'aimerais bien. Et c'est les derniers que nous engagerions parce que ce sont des gens extrêmement toxiques qui, je m'excuse, ont une espèce de jouissance à travers la mort des enfants. J'ai entendu une fois une personne autour d'une table, une professionnelle de la santé, qui a dit, moi les soins palliatifs, j'adore ça. Puis j'avais dit, pourquoi? Tu dis, c'est vrai, parce qu'ils meurent tous. Et là, il y a un problème, on est dans la psychiatrie, on est au milieu de la relation au patient. Et puis, il y a l'autre chose, c'est, alors je vais arriver sur l'autre chose, c'est que cette même personne intoxiquait aussi les parents, pas seulement les enfants, avec cette histoire de mort. Et je me rappelle d'une maman dont le fils avait une tumeur cérébrale, ces fameux Guillaume Dutronc qui n'arrête pas de mourir pendant 13 mois, qui grossissent avec les corticoïdes, qui sont à domicile, c'est très lourd pour tout le monde. Et on la voyait régulièrement. Et je dis à maman, et vous, comment ça va? Elle me dit, ça va bien, c'est lourd, mais ça va bien, mais il y a quelque chose qui me chicote. Je dis, oui, j'arrive pas à parler de la mort avec Alexandre. Il avait 12 ans. Mais j'ai dit, celui-là, il veut en parler? Non, non. Puis je dis, pourquoi vous? Ben là, madame en question, elle dit que c'était très 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 important de ne pas rater cette phase-là avec mon fils, de pouvoir parler de sa propre mort. Et ça, ça peut être très difficile, c'est souvent parce qu'on culpabilise les parents de rater la phase. Encore une fois, je vous dis, il n'y a pas le manuel pour bien mourir, la mort, elle n'est jamais belle, je tiens à le dire. Et nous, ce qu'on essaye, c'est d'adoucir, de faire vivre les enfants le plus possible, et surtout, je vais vous dire, on fait aussi la prévention dans la névrose post-traumatique, parce que vous savez bien que les parents gardent une image de leur enfant très très longtemps, et si ça se passe très très mal, c'est là-dessus qu'il faudra travailler. Donc on fait aussi de la prévention là-dessus, mais le fait de devoir avoir des recettes, on a des recettes, je peux vous en donner, on a des protocoles pour la dyspnée terminale, on a des protocoles pour la douleur, on a des protocoles pour la constipation, on a des protocoles pour assécher les muqueuses, tout ce que vous voulez, mais ça ne se passe jamais comme ça. Et il faut faire très attention à ce qu'on dit. Justement, moi je me rappelle d'une petite fille qui avait une tumeur cérébrale, qui avait 13 ans, presque 2 ans. Et puis c'était assez triste parce que c'était des parents français qui avaient émigré depuis peut-être un an et demi, donc ça veut dire, ça on le vit beaucoup là, je viens d'avoir une petite amyotrophie spinale qui est décédée, des parents algériens, immigrés depuis 8 mois, ils n'ont pas leur famille autour, ça pose d'énormes problèmes. Ces Français qui étaient là venaient vivre le rêve québécois, partant du sud de la France et voulant être dans le nord québécois, les Laurentides, monter une petite affaire, enfin tout ça. Et là, casse, leur rêve tourne en cauchemar, on leur annonce que leur enfant a une tumeur cérébrale et on les a suivis, ils étaient très 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 seuls. Bon, il y a quelques familles qui sont venues de temps en temps depuis la France. Et cette petite fille, bon, c'est le pire cas que j'ai eu, donc on prend toujours les pires histoires, hein, mais là, j'ai annoncé 3 fois qu'elle était décédée dans l'après-midi. Et elle repartait. Dans la littérature, le gasping, c'est 45 minutes à 1 heure. Elle a gaspé 6 heures. Ça veut dire qu'elle arrêtait de respirer, tout le monde se congratulait, et tout d'un coup, ça faisait le... et ça repartait. Et c'était atroce pour les parents. Et là, je veux dire qu'il faut, on pourra en parler longtemps, parce qu'on est prêt à la tuer, ça c'est sûr. On est prêt à faire des gestes euthanasiques pour arrêter tout ça, parce que c'est pas possible, ça va finir un jour. Et c'est ce que la maman me disait, avec son bel accent français, putain de Dieu, ça va-t-il finir un jour, c'est ta merde. Et là, c'est de savoir où est la souffrance, chez nous ou chez l'enfant. On sait très bien que, normalement, l'enfant, dans l'état où il est, normalement, ne ressent plus rien. Et surtout, avec les doses de midazolam qu'elle avait dans les veines et de morphine, ce qui prouve bien qu'on ne tue pas les enfants avec la morphine, vous le savez bien, je veux dire, à un moment donné, ça plafonne, puis on doublait ou 10 minutes la dose pour qu'ils s'en aillent, et ça ne marchait pas. Et ça, ça a été quelque chose d'atroce pour les parents, ils en parlent encore. Parce que ils ont tout se passait bien jusque-là. Elle n'est pas morte comme on a voulu, dans les bras de maman, en s'endormant, elle a gaspé pendant 6 heures. Et là, vous ne pouvez pas faire grand-chose, si ce n'est de faire un geste létal, qui nous est interdit, comme vous le savez. Alors, moi, j'ai la chose que j'aimerais aussi vous dire, c'est par rapport à la spécificité, c'est, je vais vous dire une bêtise, mais on ne meurt pas de la même façon en 2 mois qu'à 16 ans ou à 50 ans, on est d'accord. À 2 mois, à 4 ans, c'est dur pour notre âge. J'ai perdu un de mes amis qui avait 55 ans, qu'un collègue anesthésiste de Sainte-Justine, foudroyé par un méchant cancer en 3 mois du bas de l'œsophage, et qui lui pleurait sur les petits-enfants qu'il ne verrait pas. Donc il avait ce passé, il avait 3 beaux enfants, adultes, et puis il avait encore de l'avenir, il se projetait encore dans un avenir, c'était sur sa retraite et ses petits-enfants. Un enfant de 4 ans, il a un petit passé, et puis il a de la difficulté à se projeter. Il est clair que l'adolescence, le vécu et le décès n'a rien à voir avec... Et bon, je ne veux pas faire la psychologie de base, hein, on sait très très bien qu'il semblerait qu'à 6-7 ans, mais même avant, on disait 6-7 ans, le concept de mort est intégré. Avant, c'est des concepts des peurs d'abandon, on n'a pas la famille, papa n'est pas là, maman va nous abandonner. Mais là, écoutez, nous avons vécu une situation épouvantable la semaine passée. Ça va intéresser Philippe, parce que c'était aux soins intensifs, c'était avec un de vos collègues, Philippe Jouvet. On a eu une petite fille de 7 ans, qui avait une maladie de base, c'est une maladie de style, et un rhumatisme chronique, une arthrite rhumatoïde, pardon, soignée par un autre de vos collègues que vous connaissez bien, je suis dans la maison, Elie Adam, et on a été pris avec cette petite fille qui, malheureusement, a fait un abcès à la tête. Bon, elle était neutropénique, elle avait été sous dialyse, enfin, elle n'était pas bien, la petite fille, mais jusqu'à il y a quelques mois, elle était bien, avec ses maladies de base chroniques. Elle a fait un abcès, elle a fait une sepsis, et puis elle a fait comme une méningococcémie, en fait, mais c'était un staph, et elle est venue noire de là à là, et au jaune jusqu'au genou. Toute la discussion éthique, je passerai là-dessus, on pourrait passer 3 heures là-dessus, était faut-il l'amputer ou pas, on a fait 4, 5, 6, 8 séances là autour. Et finalement, la décision a été prise d'amputer cet enfant de 7 ans, de ses 4 membres, en dessus des jointures, sans possibilité de pouvoir l'appareiller un jour. Ça pose des questions éthiques très importantes. À la réunion, c'est très intéressant, c'est qu'à la réunion des soins intensifs, avec tous les spécialistes autour, ils ont invité les soins palliatifs. Et j'ai eu le malheur de dire, si vous m'avez invité, c'est qu'il y a peut-être une autre voie que l'amputation. Là, tout le monde m'a regardé comme une espèce d'abruti, qu'est-ce qu'il fait là, celui-ci, voyons donc, on va sauver cet enfant. Voilà, et ce fut la décision. Par contre, et c'était l'intelligence des intensivistes, ils m'ont fait rencontrer les parents au cas où ça se passerait mal. Il y avait dans le cerveau un hématome énorme, et donc nous avons à ce moment-là décidé de faire une extubation, c'est-à-dire un arrêt de traitement, d'arrêter la machine, ce qui n'est jamais facile. Quand je suis allé dire ça avec le patron, un autre intensiviste, Baruch, on s'est assis avec les parents et maman était là, papa était à 2 heures de route. On a dit à maman qu'il ne fallait pas que papa descende en voiture dans les tempêtes de neige que nous vivons actuellement au Québec, comme un fou, mais qu'il se fasse conduire par quelqu'un. C'est des petites choses comme ça qu'il faut se rappeler quand on fait des nouvelles. Et il y avait un petit garçon de 4 ans et demi, j'en viens là, cette histoire, c'est que maman, depuis 3 semaines, était là, n'avait pas vu son fils et ne voulait pas le voir. Et moi, je suis très inquiet. Et Pierre a dit, je m'intéresse beaucoup aux frères et sœurs. Maintenant, qu'est-ce que ce petit garçon est en train de vivre là-haut, dans son village, de sa sœur dont on ne sait pas ce qui se passe, qu'on a coupé un morceau, je m'excuse de le dire, et qui ne voit pas sa maman. Et maman dit, je ne veux pas qu'il me voie, moi, dans cet état-là. C'est qu'elle ne voulait pas qu'il ne voie pas sa grande sœur, mais sa maman. Finalement, là, il n'y avait pas de discussion. J'ai dit, il faut qu'il vienne, il faut qu'il voie sa sœur. Et je me suis retrouvé 3 heures après, dans la seule, avec les parents et le petit garçon, Donovan. Je le regarde parce qu'il était tout totalement adorable. Donc il a fait le fou pendant 10 minutes avec le stéthoscope du docteur à tourner autour. Puis à un moment donné, on a réussi à m'asseoir. Papa et maman étaient en larmes sur le fauteuil en face de moi au soin intensif. Et je lui ai dit, tu sais que ta sœur est très malade. Il m'a dit, oui. Il y a une méchante pipite, comme on dit au Québec, qui a gagné la bataille. Il m'a dit, elle est une méchante, ma sœur. Je lui ai dit, non, c'est pas ce que je te dis. Je lui ai dit qu'il y a une méchante, les antibiotiques, gna. Et d'entrée, il m'a dit, elle va mourir. Il a 4 ans et demi. Donc je me pose des questions sur les phases de temps en temps de compréhension des enfants. Je ne suis pas un spécialiste de la psychologie infantile. Et là, j'étais tout de suite. Et il a dit, puis toi, tu vas mourir. On me regarde. Puis il a dit, son père, toi, tu vas mourir. Sa mère, toi, tu vas mourir. Et je dis, écoute, oui, mais on n'est pas pressé là, d'accord. Et ensuite, il m'a dit, je veux la voir. Elle n'est pas morte. J'ai dit, non. Mais elle n'est pas en état, elle ne peut pas te parler. Elle a un tube dans la bouche et des tuyaux partout. Et évidemment, on avait recouvert les restes de cette petite fille. Et nous sommes rentrés avec papa, maman et lui. Il est allé l'embrasser. Et puis, il m'a dit, je veux ressortir. Je veux acheter des frites. Et j'ai dit, on va sortir les deux. Ah non, avant, il m'avait dit, je veux voir, avant qu'il rentre, il dit, je veux voir ses jambes. Je dis, pourquoi tu veux voir ses jambes? Parce que ma soeur, elle a des belles jambes. Ben, j'ai dit, écoute, non, tu vas voir ses jambes, tu sais, elle était opérée, on l'a opérée, elle est maganée, comme on dit au Québec, tu ne verras pas ses jambes. Donc il savait. Au village, en haut, les rumeurs, on lui dit, ta soeur est morte, on l'a appelé après, on y a coupé tous ses membres, il le savait, mais là, j'ai compris, pourquoi tu dis ça, mais j'ai pas, il a parlé, il m'a pas vu. Et en sortant, c'était terrifiant, il était dans mes bras, on a poussé la porte, puis il m'a dit, elle est beaucoup plus petite alors. Alors, il avait 4 ans et demi, ce petit garçon. Donc, il faut faire attention avec les normes qu'on a. Je pense qu'il avait compris beaucoup plus de choses qu'on pouvait l'imaginer. Je reviens aux adolescents. Ben oui, pour ceux qui connaissent l'adolescence, c'est une façon difficile de vivre sa vie. C'est une façon difficile. Et quand je pensais soit au petit garçon de 4 ans ou le bébé qui décède, ou soit mon ami qui est décédé à 55 ans, l'adolescence, il a déjà un passé, et il a l'avenir ouvert devant lui. Quand vous lisez les journaux adolescents, vous regardez les séries télévisées, c'est le culte du corps, c'est le culte de la performance. Les adolescents vont même titiller la mort dans des sports extrêmes. Illich disait que plus une société est anesthésiée, plus elle aura besoin de stimuli forts pour savoir qu'elle existe. Je me rends régulièrement en Haïti ou à Gaza. Je peux vous dire que les enfants là-bas, ils n'ont pas besoin de faire du bungee et de chercher. Ils cherchent juste à survivre. Au Québec, les enfants vont de plus en plus chercher ces stimuli. Et tout d'un coup, on leur annonce qu'ils ont une maladie grave. Ils vont être maganés par la maladie, maganés par les traitements. On va peut-être, si on pense à un ostéosarcome, leur amputer un membre, ils vont être très malins, très fatigués, ils vont, et je fais juste une petite parenthèse là-dessus, nous avons actuellement une recherche en cours à Sainte-Justine sur l'asthénie des enfants, puisque dans les dernières études rétrospectives de discussion avec les parents, la douleur vient en premier et l'asthénie en deuxième. Quand les parents vous parlent de leur enfant décédé. Et parfois, dans certaines études, dans une étude lyonnaise, l'asthénie vient devant la douleur. Ça veut dire que la douleur était bien soignée et que ce qui reste, c'est cette grande fatigue de leur enfant, de leur adolescent. Et donc, actuellement, on est en train de travailler là-dessus. Alors, imaginez, en plus de ça, ces gens qui vous disent « Je suis comme un petit vieux. Avant, je faisais du snowboard, je faisais de la planche à roulettes, je faisais des tas de choses, j'étais un gars vivant. Et maintenant, regardez dans quel état. » Alors, on a deux façons, évidemment, de le vivre. Excusez-moi. Et ça, je ne sais pas au pédopsychiatre que je vais l'apprendre. Soit ils vont vivre à 250 à l'heure, soit ils peuvent tomber dans ce n'est pas ce qu'on a, si on appelle ça une dépression grave, mais en tout cas, dans ce qui en a les stigmates, c'est-à-dire qu'ils se replient complètement sur eux-mêmes. Et quand je dis sur eux-mêmes, c'est pas physique, c'est souvent physique aussi, mais c'est socialement. Ils ne veulent plus voir personne, ils ne veulent pas qu'on voit ce corps-là, ils ne veulent pas qu'on voit ce visage-là, et ils ne veulent pas qu'on les voit dépérir. Et c'est très difficile. Ça va jusqu'à la violence. On a eu un adolescent qui, le soir, allait casser des voitures sur la côte Sainte-Catherine devant l'hôpital Sainte-Justine, par rage, par colère, par trouvant que c'était injuste. Alors lui, son truc, c'était casser des pare-brises sur la rue. Et puis, vous avez ceux qui vivent à 150 à l'heure. Alors, j'ai l'exemple de Laurent, parce qu'il m'a dit, je veux que tu parles chaque fois que tu feras une conférence, donc je vais le faire. Première consultation avec Laurent, 17 ans. C'est du genre, la casquette en arrière, qui me regarde comme ça, puis qui dit, salut, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Ben, je lui dis, on va voir. J'ai deux questions. Un, quand je vais mourir, et comment? Deux, est-ce que tu peux me donner du shit? Alors, j'ai dit, je ne peux pas répondre aux questions. Je dis, continue de t'approvisionner au parc, à la fontaine, il est très bon. Et puis, pour le reste, c'est correct, je te remercie, je t'appellerai quand j'aurai besoin de toi. La première fois qu'il est revenu nous voir, il dit, c'est normal, j'ai mal partout, là. J'ai vraiment mal partout. Il avait des métastases à tous les étages. Il avait fait 5 heures de snowboard le jour avant. J'ai dit, oui, c'est assez normal que tu aies mal au dos, c'est même assez miraculeux que tu ne sois pas tétraplégique. D'ailleurs, il était au courant, il savait qu'il avait des métastases. Ok, je te remercie. Le deuxième téléphone, 3 heures du matin à Michel Duval, pour certains qui le connaissent, qui est oncologue. Et il dit, Michel, je crache du sang, c'est épouvantable. Ben, il dit, écoute, tu vas à l'hôpital tout de suite. Il dit, ouais, mais je suis à Hawaï. J'ai fait la plongée sous-marine toute la journée. Bah, tu vas à l'hôpital le plus proche. Ça, c'était Laurent. Mais au-delà même de ses forces, et surtout, là, on parlera de l'entourage, au-delà même des forces de l'entourage. C'est-à-dire ses parents, ils ne pouvaient plus voir cet adolescent, quasi un homme à 17 ans, rouler comme ça, parce que nous, eux, ils ne suivaient plus du tout. Et la mort de Laurent est comme sa vie. Il est arrivé à 18h le soir dans un état que j'ai rarement vu, c'est-à-dire, pour moi, c'est les images qu'on voit quelquefois des camps de concentration, vous savez, ces gens totalement décharnés, ou d'un sidère en fin de course, comme il y en avait il y a une dizaine d'années. Et il était à la clinique externe des hémato-oncos, et il m'a dit, j'ai dit, il faut que tu restes là, les parents me regardent, vous allez le garder, là. Et il m'a dit, non, j'ai encore des adieux à dire, j'ai pas fait le tour. Il dit, mais tu peux pas aller comme ça, c'est pas possible pour tes parents. Il dit, non, c'est moi qui commande. Tu m'as toujours dit que c'est moi qui commandais, donc c'est moi qui commande. J'ai fait un deal avec lui en disant, on t'a un lit, tu viens quand tu veux, mais demain matin, tu me promets que tu rentres. Il dit, d'accord. Et sauvé par le gang, on apprend qu'il y a toute une clique, une équipe, une gang, comme on dit au Québec, d'ados qui sont à l'urgence, puis qui cherchent Laurent. Alors j'ai dit, allez les chercher, qu'ils viennent. Et puis je les ai laissés, puis dans le stationnement de l'hôpital, mon bip sonne, et on me dit, Laurent veut rester. Il est là comme il a fait ses adieux à tout le monde, c'était cette gang qui voulait voir. Et le lendemain, ce fut la même chose, il était dans un état, il avait des métastases, plein les poumons, il respirait avec une alvéole, je ne sais pas comment c'était, il voulait être conscient jusqu'au bout. La souffrance, elle était autour de lui. La souffrance, c'était les parents. C'était les infirmières, c'était les médecins qui étaient là, il faut faire quelque chose, ça ne va pas le laisser comme ça. Il a toujours dit, Nago m'a dit que c'est moi qui commanderais. Et donc, on lui a donné un peu de morphine, et puis là j'ai dit, écoute, il faut qu'on te donne du midazolam, on ne peut pas te regarder mourir comme ça étouffé, mais je t'ai expliqué que si on te le donne, on te donne en continu et que tu vas perdre le contact avec nous. Je ne suis pas prêt. À midi, le bip sonne. Ça, c'est Laurent. Il dit, ça y est, c'est bon, tu peux y aller. D'accord. Je dis, non, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, il a voulu absolument nous régler sa vie et nous diriger, comme ce n'était pas possible. Et il est décédé. Je dis, par contre, il l'a voulu, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Les parents sont très fiers. Ils sont venus plusieurs fois, ils m'ont téléphoné, ils ont dit. Puis quand je suis arrivé, quand il est décédé, puis je suis arrivé dans la chambre, les parents m'ont dit, Laurent a fait ce qu'il a voulu jusqu'au bout et il vous a bien eu. Et je crois que ça, c'est extraordinaire, mais c'est extrêmement rare. Et c'est, alors, attendez, je suis content de voir les parents dans l'état où ils sont maintenant, mais ça aurait pu complètement épuiser les parents. Et ça, c'est l'autre chose, alors, pour le domicile, parce que nous, c'est un écran d'évaluation. Là-dessus, il n'y a pas de bon endroit, de mauvais endroit pour mourir, je tiens à vous le dire. les gens diront, moi je vais offrir ça à mon fils, c'est normal, ou à ma fille, la maison. Mais il faut faire extrêmement attention, parce que là, c'est les parents qui vont tomber malades, ou c'est les frères et sœurs. J'ai cette histoire aussi très très belle de Christina, qui voulait mourir. L'adolescente avait un objectif, c'est ce qu'ils appellent les rêves d'enfant, et elle allait au Mont-Tremblant avec papa et maman, et son frère. C'était la dernière. On a tout fait pour qu'elle, vraiment, elle est partie dans un état, mais elle n'est pas morte au retour. Et puis, elle m'a dit cette chose extraordinaire, mais maintenant, j'ai plus rien à faire. Ce qui est terrible, Nago, c'est que j'ai dû attendre 17 ans pour que mon père me dise qu'il m'aimait. Il a fallu que j'aie eu un cancer pour que mon père me dise qu'il m'aimait. Et c'est très positif, mais c'est terrible. Le monsieur était alors un paysan, un agriculteur, un type extraordinaire, mais on ne pleure pas, on n'a pas de sentiment. Je le vois régulièrement, ce monsieur. Il est boire un café avec moi à la cafétéria. Et on parle de sa fille. Et là, elle essayait de mourir. C'est comment on fait? Je dis, je ne sais pas. Et c'était une mort extrêmement difficile, parce qu'elle n'avait plus rien à vivre. C'était, il y a des gens très âgés qui disent, ben, j'ai fait mon temps, je peux m'en aller, mais 17 ans. Mais je pense qu'elle était à ce même point-là, au vu de son état. Il y a aussi cette question chez les grands-parents, cette grande injustice. C'était mon tour. Pourquoi c'est le tour de ma petite-fille? J'ai fait longtemps. C'est totalement injuste. Qu'est-ce qu'on a fait? Enfin, ça, je rentre pas là-dedans sur l'histoire de culpabilité. On sait maintenant que le taux de morbidité augmente après le deuil d'un enfant. Le taux de séparation des parents augmente. Mais c'est assez étonnant. Moi, j'ai vu des parents séparés après, puis qui m'ont dit, vous savez, Nako, ça n'est déjà pas entre nous avant. Et ça a été, il faut être tellement fort pour traverser une épreuve comme ça. Ça, c'est juste le truc qui fait casser le couple. Et d'autres, dont on imaginait que... Ben eux, en tout cas, on est sûr qu'après la mort de leur fille, ils vont se séparer, ils sont toujours ensemble. Mais c'est possible, ça peut arriver, mais il ne faut pas mettre, je dirais, toute la faute sur le deuil de l'enfant. Et puis, alors, moi, je ne sais pas quoi faire avec ça. Il y a des associations qui sont très bien. Ce que je trouve qu'il ne faut pas faire, c'est médicaliser le deuil. Et la seule chose que je demande à mon équipe, c'est qu'ils s'assurent que les parents ne sont pas seuls. C'est tout. C'est pas à nous à faire le travail avec eux après. S'ils ont personne, oui. Mais on a toujours, comme je vous dis, c'est quatre fois la France, le Québec, et j'en viens de loin, à Sainte-Justine, et je pense que simplement ce qu'on essaie de contrôler, c'est qu'ils aient un médecin généraliste, un pédiatre, un psychiatre, un travailleur social, des fois un prêtre, des fois un instituteur, des fois un ami de la famille, enfin tout ça, parce que c'est pas toujours pathologique le deuil, on est d'accord. Quand ça devient pathologique, alors ça regarde la psychiatrie. Il faut médicamenter. Hein. Ça, je crois que c'est très important. Mais avant, je crois qu'il faut laisser le temps. Et je trouve que ce que je dramatique dans nos hôpitaux actuellement, c'est qu'on ne supporte plus les larmes des gens. On a tellement... Moi, j'ai une maman qui m'a dit un jour, ma fille n'est pas une commode à tiroir. Et c'était très bien. Elle a mal à l'œil, c'est l'ophtalmologue. Elle a mal au dos, cette fille. Elle en a mal, elle était complètement... Le père a dit une chose magnifique que je tiens à vous dire. Le monsieur était à la construction. Et quand il rentrait à Sainte-Justine, il y a des grands machins, il s'était marqué « Ici, on parle 35 langues. » Et le père avait dit « Mais on ne communique pas. » C'est magnifique. Je lui permettais que je la prenne, celle-ci. Il m'a dit « Oui, comme vous voulez. » C'était très, très juste. Les gens ne communiquaient pas entre eux. Et effectivement, leur fille était comme un tiroir. Mais dans les soins aussi, souvent. Je me rappelle d'une infirmière qui était à mes côtés, il y avait une équipe de clowns. Et tu sais, si je suis pour les clowns, hein, c'est pas, ne mettez pas dans mes paroles des idées que je n'ai pas. Et je regardais ça, puis je trouvais ça rigolo, les matos en coupe. Et puis l'infirmière, à côté, faisait la gueule. Puis je lui dis, t'aimes pas ça? Elle m'a dit, qu'est-ce qui va nous rester à nous? Et c'était très intéressant, parce qu'elle disait, ils ont une larme, nos enfants, les matos en coupe, on appelle la psychologue. Les parents vont pas très bien, on appelle la travailleuse sociale. Il faut les faire rire, on a les clowns. Il faut. Il y a la musicothérapeute, il y a la masseur machin, il y a la chose. Et là, finalement, nous, les infirmières, on est juste là pour passer la chimio, faire les gestes qui font mal et tenir la bassine quand ils vomissent. Et ça, je crois que dans cette hyper spécialisée, dans ces centres hémato-oncologiques, et je trouve ça très très bien, je suis un peu méchant, puis je peux le dire ici, ben, je suis à Paris, puis je peux écouter à Montréal, on oublie souvent qu'il y a des enfants qui meurent d'autre chose que du cancer. Nous, la moitié, c'est des maladies neurodégénératives, mais tout l'argent va pour le cancer. Et si vous voyez le centre anticancéreux chez nous, c'est le Hilton, à côté du vieux bâtiment. Et c'est très symbolique. Hein. Il y a une passerelle entre le centre anticancéreux qui a été payé avec des fonds privés et le reste de l'hôpital. Ça amène beaucoup de frustration et dans le personnel et chez les médecins. Là. Alors, juste faire attention dans ces espèces de grands trucs un peu luxueux. Moi, je pense que tout le monde devrait avoir les soins que les petits cancéreux ont. J'aimerais quand même parler, on est venu sur le deuil. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que quelqu'un, un psychiatre belge, disait toujours, bon Dieu de bois, le professeur Allier, disait, laissez donc aller les gens au rythme qu'ils ont. C'est comme si toute la société était au même rythme, les enfants c'est la même chose. Et laissez-les leur faire leur deuil à leur rythme, écoutez, moi, il y a des petits frères, des petites sœurs, des fois, qui disent le grand frère ou la grande sœur vient de décéder, et puis tout d'un coup, on entend bon, ben, on va manger un truc, ou bien qu'est-ce qu'on fait? Et c'est pas, bon Dieu, franchement, mais c'est correct. J'en ai un qui m'a dit la télé, on peut l'emporter, ou bien justement, sa sœur venait de mourir. Mais je trouve ça plutôt sain, parce que ça va ressortir à un moment donné ailleurs, et c'est pas, ils ne sont pas méchants, ils ne sont pas tristes, c'est leur façon à eux de le vivre. Et par rapport au deuil, ben, je vous parlais de la néonate et de la mortinescence. Et moi, je vais vous raconter une histoire. Je vous rappelle, à l'époque, c'est une vingtaine d'années, ben, quand j'étais chez Guillotin à Lyon, on s'était penché justement sur ces problèmes de filiation. Et c'était les débuts de la Tavistock Clinic à Londres, où Bone avait vu que, je vous rappelle qu'avant, les enfants mortinescence, donc les enfants mort-nés n'avaient aucun statut, juste dans le sens. N'était pas inscrit dans le livret familial, n'avait pas de patène, pour ceux qui voulaient le baptiser, n'avait pas de prénom, n'avait aucune existence d'un dossier médical, ce qui est extraordinaire quand même. C'est 20 ans, c'est le siècle passé, vous allez bien, mais c'était il y a 20 ans. Et puis on s'est aperçu que, après, en mettant le bébé sur le ventre de la maman, si elle le désire, il ne faut toujours jamais forcer les gens, en faisant des actes, on atténuait après les problèmes de deuil et surtout les suites de la filiation qui venait après. À Sainte-Justine, on a un petit kit, c'est pour la néonate et surtout pour la salle d'accouchement, qui est des petits chaussons, des petites choses, on les habille un peu comme la maman, parce qu'ils ne sont pas toujours très beaux, évidemment. Il y a toujours une photo que les parents ne sont pas obligés de prendre, mais qu'on garde. Les parents nous la remontent toujours, même si c'est trois mois après. On fait des empreintes des petits pieds, comme un timbre, qui partent avec la carte, et s'il y a... Il y avait un bracelet, il n'y en a pas, mais il faut qu'ils partent avec quelque chose. S'ils ont des cheveux, il y a une petite messe de cheveux dans un petit truc en plastique. C'est pas ridicule. Ça reste quelque chose. J'ai dû sortir un bébé du frigo, c'était une situation épouvantable, d'une maman qui était venue 6 semaines après. Elle ne savait toujours pas ce qu'elle allait faire, donc il était à la mort. Et là, elle revient à l'administration pour dire, bon, ben là, je suis d'accord, qu'ils sont incinérés. Mais ma fille veut le voir. Et donc, la administration a eu ce réflexe très bon, on va appeler l'équipe de soins palliatifs. Et puis, j'ai vu la maman, c'est une maman haïtienne. Et puis, j'ai dit, oui, mais pas votre fille. Donc, je suis d'abord allé voir, excusez-moi la gueule qu'il avait. Et c'était correct. Donc, on l'a arrangé avec l'infirmière, on l'a amené dans une chambre, la maman est venue, puis elle est sortie, puis elle m'a dit, mais je veux que ma fille le voie. Alors, je suis allé voir la fille de 7 ans. Et puis, j'ai dit, ok, viens, mais tu ne la touches pas, tu regardes. Et, ça. Et bien, 2 semaines après, la maman m'a appelé en disant, écoutez, je vous remercie infiniment, ma fille va super bien, elle remange, elle dort. Elle avait nié la grossesse de sa mère pendant toute la grossesse. Imaginez-vous. Elle a dit toute sa grossesse. Il est né à 8 mois, hein, le bébé. Et chaque fois, elle a dit 8 mois et demi. Puis elle a dit, c'est pas vrai, t'as un bébé dans ton ventre, c'est pas vrai, t'as un bébé dans ton ventre, t'as juste un gros ventre, donc elle avait nié ça. Et vous imaginez, maman rentre à la maternité de Sainte-Justine et revient sans rien. La fille avait raison. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces bébés-là? Où c'est qu'on les met à Sainte-Justine? C'est la même chose pour mon petit garçon qui voit sa sœur puis qu'on lui explique la sœur amputée. Qu'est-ce que ça signifie si un jour, comme vous disiez, papa ou maman doit aller dans un hôpital? Ça veut dire qu'on rentre dans un hôpital puis qu'on ressort mort ou bien qu'on nous cache ou que ma sœur, je ne l'ai plus revue. Donc, ça paraît assez fou, ça paraît assez atroce, mais ces choses-là sont extrêmement importantes. Et puis, j'ai cet exemple qui m'a marqué, puisque j'en parle encore 20 ans après. Patrice a dû le lire dans ma tête. C'est cette Je travaillais à douleur chronique dans un département de médecine interne à Neuchâtel, qui est une petite ville suisse. Et le patron avait montré une patiente de 25 ans pour des douleurs chroniques, sans substratum organique, comme on dit, on ne trouve pas. Et quand la médecine ne trouve pas, elle juge, donc elle était folle. Et donc, je parle avec cette jeune femme, et puis c'était... Alors, ce que je vous raconte, je ne l'ai pas eu en 10 minutes, je l'ai eu en 3 mois, mais d'accord. Et l'histoire de cette femme est très intéressante. Sa mère a un enfant mort-né avant elle. Maman fait un enfant de remplacement, raté, c'est notre patiente, une fille. Elle refait un deuxième enfant, et là, c'est un garçon. Ce garçon, donc le petit frère de notre patiente, décède dans un accident de la route à 11 ans. Au funérail de ce garçon, notre patiente entend sa mère dire « c'est toujours les meilleurs qui s'en vont ». Elle ne comprend pas les meilleurs et elle va interroger sa mère. Elle apprend qu'elle avait eu un frère avant elle. Et dès ce moment-là, chaque fois qu'il y a un enterrement dans la famille, un grand-oncle, une grand-maman, elle dit « c'est moi qui devrais être dans ce cercueil ». Quand elle est venue à l'hôpital des Cadoles de Neuchâtel, c'était pour une tentative de suicide suite à l'accouchement de son premier enfant. On est vraiment dans la guillotesque complète, on est d'accord, on est dans la filiation. Et elle me dit, j'ai voulu finir ce qui n'aurait jamais dû commencer, moi. Donc, vous comprenez, quand je raconte cette histoire qui est assez symbolique, c'est que je dis toujours combien les mordés peuvent emmerder les autres après s'ils ne sont pas vécus comme un enfant. Et je trouve ça tout à fait intéressant parce qu'à l'époque où je faisais ce travail-là, j'ai interrogé ma maman et j'ai appris que j'avais une sœur avant moi, que je n'aurais pas dû être là. Je m'en tire pas trop mal. 4 ans d'analyse quand même, mais je m'en tire assez bien. Et j'ai un frère aîné. Donc, comme mon père et ma mère voulaient une fille et un garçon, ils ont eu la fille en premier, mon frère qui est mon aîné, puis moi, je serai dans les nuages quelque part. Mais c'était très intéressant parce que ma maman m'a dit « Mais pourquoi tu me poses des questions ?» Je dis « Oui, je travaille là-dessus. » Puis ça m'a dit « Oui, oui, tu as une sœur, mais tu étais mort-née, on n'en a pas parlé. » Donc elle existait d'une part. C'est, alors, il y en a avoir plein partout qui hantent comme ça les familles. Les frères et sœurs, effectivement, comme l'a dit Pierre, pour moi, c'est ceux qui payent le plus tribut à la mort d'un enfant. C'est les oubliés de l'histoire de la maladie. Je vais vous donner un exemple. Il est clair, par rapport au petit garçon, ou par rapport à une fille qui vient décéder la semaine passée, Marianne, 12 ans, taxi, tergectasie, une mort atroce, comme celui que c'est cette maladie, ça meurt par les poumons, ça meurt comme des fibroses kystiques, c'était une mort douloureuse, et j'en parlerai tout à l'heure parce que elle ne mourait pas, justement. Et les grands frères et sœurs, ils n'en pouvaient plus. Et ils ont eu toutes les pensées imaginables sur cette sœur, qu'elle crève, qu'elle meure, qu'elle nous ébarrasse le plancher, qu'on puisse retrouver une vie normale. Et tous les frères et sœurs ont ces idées-là. Je reviens au Québec, maman est à l'hôpital, papa est à 3-4 heures de voiture, des semaines, maman est prise par le garçon ou la petite fille qui est là, il nous enlève notre mère, et c'est très compliqué. Puis quand il revient à la maison, il faut être gentil avec, il faut jouer avec, alors qu'on a l'autre copain, il ne faut pas faire trop de bruit. Finalement, ils ont tous, on a tous voulu un jour la mort de notre frère ou de notre soeur, mais ça n'est pas arrivé. Mais là, ça arrive un coup. Et la culpabilité de ces frères et soeurs est énorme. Si vous ne les mettez pas dès le départ de la maladie, pour leur montrer que l'agresseur, c'est la maladie, et qu'ils doivent être pas contre la maladie et pas contre les parents. Et le moment où ils comprennent les traitements que les enfants ont à l'hôpital, je vous promets, ils sont plus jaloux du tout de leur frère et de la soeur. C'est pour ça qu'il faut, sans tout expliquer, leur montrer que c'est pas par hasard que maman n'est pas là, c'est qu'elle l'aime toujours et c'est après la difficulté à retrouver l'amour des parents. Ils sont dans un état de dépression, évidemment, choqué après la perte de l'enfant qui est très compliqué. Et leur expliquer qu'ils ont pas besoin de tomber malade pour être aimés par les parents. Et ça, c'est aussi important. Parce qu'on a quelques problèmes après avec les frères et sœurs, évidemment, qui croient qu'il faudrait vraiment être malade pour être... J'avais mis cette phrase dans le film dont tu parlais, d'une infirmière, ça c'est une personnelle soignante, c'était intéressant, qui était venue insensible à ses enfants. On est tous insensibles. Moi j'ai un petit gars de 10 ans à la maison, j'aurais dû nous le présenter, c'est le plus grand hypochondriaque qui existe sur la Terre. Il tombe, il est mort. Il me refait 6 fois la blessure de la cour d'école pour montrer combien il est tombé, puis combien est-ce qu'il a besoin d'un cœur. On se pose la question si chez moi il faut être très malin. Il est assez extraordinaire, on en rit, mais il est assez étonnant. Et ceci dit, ça montre bien qu'on doit faire attention. Et l'infirmière m'a dit, écoute, Nago, je suis tellement insensible, ma fille, je suis tombée, c'est creusé, puis je suis fatigué, je rentre de l'hôpital, j'en ai vu d'autres. Ma fille de 4 ans ou 5 ans, je ne sais plus vivant, elle m'a dit, tiens maman, c'est pas de ma faute si je ne suis pas malade, moi. Et donc là, elle a dit, je vais peut-être m'occuper de mes enfants. Donc c'est pas la vie qu'on mène n'est pas normale, c'est ça que je veux vous dire. Et puis, combien... Et moi, je vais vous raconter cette histoire qui m'a beaucoup touché, et parce qu'elle me concerne aussi. J'avais fait un film sur les frères et sœurs. J'avais interrogé des frères et sœurs après. Puis je l'ai passé à Neuchâtel, dans ma ville suisse. Et dans la salle, il y avait une personne aux cheveux blancs qui est venue me voir après et qui m'a dit, je voulais vous dire, monsieur Abel, cette phrase, je l'attends depuis 50 ans, 60 ans. Quand vous avez dit, c'est les frères et sœurs qui payent le plus lourd tribut à la maladie. Cette dame était ma psychanalyste, je n'étais plus son patient. Alors après avoir dit une bêtise du genre, ça fait 200 francs et ça me fait plaisir, de faire du bien à ma psychanalyste, j'ai dit, mais bon, combien est-ce qu'on ne connaît pas le psychanalyste en plus? Et je l'ai appelé en lui disant, écoutez, je ne suis plus votre patient, ça m'intéresse. Elle m'a dit, je suis d'accord de vous voir, on est allé boire un café ensemble. Et cette brave dame était à Bergen-Belsen, dans un camp de concentration, avec sa sœur et sa mère, et elle est revenue avec sa mère. Sa sœur est restée, et toute sa vie, elle a pu se plaindre de rien du tout. Chaque fois qu'elle disait quelque chose, tais-toi, t'es en vie, pense à ta sœur. Oui, mais maman, tais-toi, t'as de la chance. À tel point, elle m'a dit que j'ai envié ma sœur d'être morte pour avoir l'amour de ma mère. C'est une dame qui avait 70 ans qui me disait ça, c'est très touchant. Et vous dire combien les frères et sœurs, et je trouvais ça ne touche pas un enfant, mais ça touchait quelqu'un qui était un enfant à l'époque, peut nous poursuivre le plus longtemps possible. Les grands-parents, eh bien, j'en dirai deux mots avant de conclure. Effectivement, c'est des personnes, je dis toujours, il y a une chambre, il y a un enfant, il y a une femme, il y a un monsieur, puis sur la banquette où les parents peuvent dormir chez nous, il y a une tête blanche, un papa, femme ou homme, c'est grand-papa et grand-maman. Et c'est, la géographie est intéressante parce qu'ils ne sont pas là, ils n'existent pas. Tout le monde rentre vers le lit, parle aux parents, parle à l'enfant et parle pas aux grands-parents. Et puis quand j'ai commencé à m'asseoir à côté d'eux, puis je leur dis, vous, comment ça va? Vous occupez pas de moi. Occupez-vous de mes enfants, occupez-vous de mes petits-enfants, nous ça va. Et bien l'étude qui sort cet automne, qui a été faite en France, au Québec et à Lausanne, par l'anthropologue Madame Legrand-Séby et nos anthropologues, montrent que les grands-parents lausannois, lillois, cherbrouquois ou montréalais vivent les mêmes choses, ce qui n'est pas étonnant, une souffrance terrible qu'ils ne peuvent pas dire. Il y a des groupes pour les frères et sœurs, il y a des groupes pour les parents, il n'y a pas de groupe pour les grands-parents. Et eux se sont effacés. Et combien ils sont importants pour l'enfant. L'enfant se rend compte que papa et maman n'est pas tout seul. Vous savez combien les enfants protègent leurs parents. Refusent de mourir des fois pour ne pas faire de la peine à leurs parents. Là, ils savent qu'il y aura papa, que papa et maman ont aussi un papa et une maman. Donc, ça... Et puis, le rapport que les grands-parents lient avec les petits-enfants sont extraordinaires. Parce qu'ils viennent pallier à domicile ou à l'hôpital papa et maman. Et j'ai des histoires que je ne vous raconterai pas ce soir, mais d'une beauté entre un petit-fils et une grand-maman, un petit-fils et un grand-papa, qui est tout à fait exceptionnel. Cette question-là, et je vais terminer là-dessus, sur ces enfants qui ne meurent pas. Alors j'ai eu deux situations. La première, c'est la petite fille dont je vous parlais, Marianne, c'est un taxi. Je la vois au mois d'août. Au mois d'août, en juillet, elle marchait, elle respirait sans rien. Là, ses poumons, d'un coup, c'est pareil, je ne connais pas mal cette maladie, mais c'est prévu. Je pense que la pire des choses qu'il peut faire, en plus, c'est un cancer. Elle était au moins épargnée par le cancer dans cette maladie, mais là, ses poumons commencent à ne pas bien aller. et c'est sur un fait évidemment, et puis elle commence à perdre de sa mobilité. Et avec, encore une fois, c'est encore Ellie, je me suis dû parler d'Ellie parce que c'est une de ses patientes, Ellie Adam, on s'asseye et puis il dit, je crois qu'il faut qu'on aille en soins palliatifs, là je veux dire, elle l'est, en soins palliatifs, mais il faut que tu te présentes, je veux que tu ailles avec ton équipe, mes parents nous ont foutu dehors. Je crois que cette fille est rentrée sur ses deux jambes. Et ils sont été au courant de la maladie. Ça, ils savaient mieux que vous savez, comme les parents savent mieux que nous. Ils sont allés sur Internet, ils ont tout lu là-dessus. Mais là, pour elle, elle était en vie. Elle était très en vie, Marianne. Je peux vous dire qu'elle était d'avoir un sacré caractère. Et puis, et c'est intéressant parce que le père, elle est décédée mardi passé. Papa m'a dit, vous êtes rentré tôt, vous êtes venu trop tard. J'ai dit, mais rappelez-vous, monsieur. Moi, il est foutu dehors. Elle m'a dit, oui, c'est vrai. C'est la vision après, vous dites, qu'on est arrivé trop tard. Et là, il y avait la répartition des rôles. Papa dans la construction, il travaille et dans l'action, et maman est proche de Marianne. Il y a trois frères et sœurs, 19, 17, 14, qui eux ne veulent pas venir à l'hôpital. Nous, c'est pas pour nous l'hôpital, occupe-toi de sa maman, tu nous ramènes notre petite sœur en ordre. Et Marianne pensait qu'elle ressortirait sur ses deux pieds. En décembre, ça ne va pas du tout, et c'est ce moment assez terrible que j'ai vécu. La maman vient et elle me dit, écoutez, Nako, Marianne vient me dire qu'elle veut rentrer à la maison, qu'elle va aller mourir à Noël chez elle, que ça suffit. Elle a vécu tout ce qu'elle avait à vivre. Je peux aller contrôler ça. Alors, oui, je rentre dans la chambre, Marianne avec son petit masque, des fois difficile à comprendre, et je lui dis, écoute, je t'arrête l'intérêt, s'il te plaît, parce qu'il faut que je te parle. Je m'assieds sur son lit, puis je dis, tu as dit des choses terribles à ta maman.
Ouais.
Et je dis, oui, j'aimerais que tu me le dises à moi parce qu'il faut que je contrôle, savoir si on peut t'organiser quelque chose pour domicile. Elle dit, non, c'est vrai, ça suffit d'un coup, je vais aller mourir à Noël à la maison. La petite fille de 12 ans en face de vous, et la phrase après c'était, et tu pleures pas s'il te plaît. Parce que j'avais les yeux un peu humides quand même. Et j'ai dit, j'ai le droit de pleurer parce que je t'aime beaucoup, et puis si tu dis des choses comme ça, merde, j'ai aussi le droit de pleurer un petit coup. Elle m'a dit, mais une fois, bon, c'est d'accord. Donc je suis ressorti, on a fait une réunion avec Ellie et la pédiatre, et puis on a décidé que oui, on tentait le coup, on faisait le soin palliatif à domicile, bien sûr, avec l'accord des parents, le concentrateur à domicile et tout le temps, on a tout organisé. Et le 24 décembre, elle a décidé de mourir. Donc elle s'est couchée dans le lit, elle a appelé sa grande sœur pour qu'elle la serre, puis concrètement, elle a essayé de faire arrêter son cœur. Ça a marché, évidemment. Mais la phrase que je me rappelle, c'est que la deuxième phrase que je lui ai dit, moi, après qu'elle ait dit ça, j'ai dit, et si tu meurs pas, qu'est-ce qu'on fait, Marianne? Puis elle m'a dit, ça va être un problème. Et ça a été un problème. Parce que les parents ne pouvaient plus. Je suis venu en Suisse à Noël, ils m'ont appelé tous les jours, ils m'ont dit, il faut faire quelque chose. Mais elle est correcte, elle était soulagée avec les petits peu de morphine qu'on y mettait, elle avait une petite pompe à morphine, elle recevait les petites doses. Elle avait ses ventolins, elle avait ses choses. Qu'est-ce qu'on veut qu'on fasse de plus? Oui, mais vous nous avez dit que vous ne la reverriez certainement pas en revenant de Noël, de leurs attentions. Et ça aussi, les prévisions, c'est toujours trompé. Et ça pose un vrai problème. Je ne peux pas terminer là-dessus, mais je vais terminer quand même là-dessus parce que ça ouvre, c'est une question qui ouvre. C'est, on en a plusieurs. Et j'ai eu une maman, il y a un mois, qui m'a appelé. On les a pas oubliés parce qu'on les oublie. Qui me dit, je veux vous voir, parce que c'est pas possible. Là aussi, c'est une tumeur cérébrale. Elle est morte au mois de mai l'année passée. Après, il a dit, dans 3 heures, elle est finie, elle a convulsé. Elle a cuvé tout le valium qu'il y avait donné à l'hôpital périphérique pendant 3 jours. Et elle vit toujours. Avec cette tumeur cérébrale, elle est tout à fait là. Seulement, elle ne peut pas bouger, elle ne peut pas marcher. Et elle est au milieu de la maison, avec un petit frère de 2 ans et demi, elle en a 4 ans et demi, et un grand frère de 5 ans. Et les parents disent, on n'en peut plus. Ça fait 2 ans que ça dure, on n'en peut plus. Ils ne veulent pas la mettre dans l'hôpital, on leur propose des répits, ils ne veulent pas. Et là, ce qu'on a simplement fait, c'est de les remettre dans notre dossier, enfin je dirais, de reprendre pied chez eux, parce que c'est extraordinaire, quand elle va bien, plus personne ne va. Elle faisait des plis, vous savez, à cause des corticoïdes et tout ça. Donc on avait envoyé la stomathérapeute, puis l'infirmière du centre de santé qui allait. Puis après, on avait essayé de décadrer. Puis ça allait beaucoup mieux. Donc l'infirmière va plus. Mais maman avait un bon contact avec cette infirmière qui passait faire les pansements. Et donc on a réintroduit tout ce monde-là et ça va juste mieux parce qu'ils savent bien qu'au-delà de ça, on ne peut pas aller plus loin. Et puis, il faut offrir absolument des répits aux parents. Je dis, bon, ben, on apprend deux semaines, faites quelque chose, occupez-vous les autres enfants, et voilà. Et je terminerai par un tout petit texte sur les larmes que j'ai écrites, parce que je vais vous le dire comme ça. Ça s'appelle « Un monde de larmes ». C'est des choses que j'ai vues, comme ça, dans l'hôpital. Je marche dans ce couloir que je parcours quotidiennement sans m'apercevoir que, depuis des années, je croise des centaines de personnes qui déambulent dans l'anonymat de cet étrange lieu blafard, éclairé par cette lumière unique et universelle que nous offrent les tubes néons. Pourquoi les lieux de passage dans les hôpitaux doivent-ils toujours atteindre des sommets dans l'échelle de la laideur? Nos salles de bain ont bien plus de cachets. Quant au choix des couleurs, celui qui les choisit doit être ou daltonien ou un grand dépressif. Finalement, j'en conclus qu'un hôpital doit toujours avoir l'air malade. En passant devant la porte des soins intensifs, mon regard est attiré par le visage inondé de larmes d'une femme qui me regarde sans me voir. J'imagine alors qu'on vient peut-être de lui annoncer que son enfant a peu de chances de survivre à la maladie qui le ronge depuis des années ou à l'accident qui l'a fauché il y a quelques jours. Ce matin, en sortant de notre bureau avec des collègues, encore hilares d'une plaisanterie plate dont j'ai le secret, alors que nous attendons l'ascenseur, j'aperçois du coin de l'œil une femme suspendue au téléphone mural. Je n'entends pas ses paroles, mais les larmes qui coulent sur ses joues parlent d'elles-mêmes. Je me sens soudain mal à l'aise et j'ai hâte que l'ascenseur arrive. Je me sens lâche aussi. Je ressens une telle solitude chez elle, un tel désarroi. Mais je ne connais pas son histoire, et c'est mieux ainsi. Cette femme anonyme a le droit de rester dans l'anonymat de son existence. Mais je ne peux m'empêcher, dans mon cinéma intérieur, de construire un scénario. Elle communique peut-être à un membre de sa famille une nouvelle dramatique concernant son enfant, dans ce décor surréaliste qui pourrait prêter à sourire si ce n'était le tragique de la situation, dans le passage d'un corridor, debout, devant les inconnus qui attendent l'ascenseur, et qui se racontent les dernières aventures de leur fin de semaine. Mais heureusement pour elle, la douleur l'a rendue aveugle. Elle ne voit pas la couleur gris-vert des murs qui font plus penser à une caserne de l'armée suisse qu'à un hôpital québécois. Elle ne voit que son fils alité et intubé qui repose derrière ce mur sur lequel est accroché ce maudit téléphone porteur de mauvaises nouvelles. La porte de l'ascenseur s'ouvre. Une joyeuse bande de jeunes femmes et de jeunes hommes bardés de stéthoscopes et d'humeur joyeuse en sort. La jeune femme s'est appuyée contre le mur, elle a envie de disparaître dans le plancher, mais elle a déjà disparu aux yeux des futurs docteurs qui ne l'ont pas ignorée, puisqu'ils ne l'ont pas vue. Je trouve que l'hôpital pourrait au moins offrir un siège à ce point stratégique de la communication des drames humains. Le téléphone mural au bout du corridor du service des soins intensifs. Mon bip sonne. On m'attend pour une nouvelle consultation au service externe d'hémato-onco. C'est une adolescente dont la maladie a gagné la partie. Elle est devant moi, elle n'a aucun symptôme. Elle sait qu'elle est condamnée, pas à mourir, mais à vivre quelques mois encore. Deux larmes coulent sur son visage, si fin et si jeune. Elle me dit, comme pour me rassurer, « Tu sais, j'ai pas peur de mourir. Si je pleure, c'est que je me fais du souci pour ma mère, quand je ne serai plus là. Je l'imagine tout seul et j'ai de la peine. » Hier soir, des parents m'ont rapporté que leur fille de 8 ans, dont le petit frère était en train de s'envoler vers un lieu sans souffrance, leur avait demandé d'arrêter de pleurer, en argumentant qu'elle avait peur que les larmes les épuisent, et alors ils n'auraient plus assez de force pour l'aimer après le décès du petit frangin. C'est une nuit chaude de l'été montréalais. Il est 2 heures du matin, je sors de l'hôpital après une soirée particulièrement éprouvante. Une petite fille, atteinte d'une tumeur cérébrale, avait décidé de jouer les prolongations de son existence. 4 fois, j'ai dit aux parents que c'était fini, et 3 fois, elle avait décidé que ce n'était pas fini. Nous étions tous épuisés par ce petit souffle de vie. Les parents en premier. Puis finalement, le petit thorax ne s'est plus soulevé au grand soulagement des parents. Et si j'étais honnête, mais aujourd'hui je ne peux l'être devant vous, également des soignants. Sur le trottoir, je croise le pédiatre avec qui j'ai vécu cette journée Par pudeur, je lui adresse un petit signe de la main, car je vois que ses yeux sont humides. Pas de parole surtout, juste un geste pour lui signifier « On a été solidaires toute la journée, on sera jusque dans les larmes. » Il m'a souri. J'espère qu'il n'a pas vu celle qui glissait sur ma joue. Merci.
Merci beaucoup. La chaleur des applaudissements. Tu as senti à quel point tu nous avais émus et fait rire. Et merci. Nagwimbert a dirigé un ouvrage sur les soins palliatifs pédiatriques. Je crois que ça va être le seul qui existe, n'est-ce pas, en français, qui est édité par les éditions Sainte-Justine et qui est un ouvrage pour ceux qui sont intéressés, qui est très bien, il est unique. Et il a eu le courage de monter ce livre qui a demandé beaucoup de vous.